Bienvenue à La Grange, saison 2, épisode 4, La Grange, esprit critique.
Esprit cynique.
Ça va Eric, tu vois la vie en rose?
Très bonne vanne, elle écoute pas l'émission donc c'est pas grave.
Ok, je fais mon édito, tu fais ton édito, jingle, tout ça?
Ouais, vas-y.
Allez, aujourd'hui en intro, l'effet Barnum. Alors si vous êtes friand de podcast sur l'esprit critique, ça va être de la grosse redite hein, globalement. Mais si vous êtes friand de Joule ou de l'enfoiré, vous allez apprendre un ou deux trucs.
Et j'ai appris d'ailleurs que les méchants dans la grosse moula, c'est les flics en fait.
Et j'ai failli faire une analyse dans la rubrique Serious Business,
ouais.
Et je savais pas parce que je me disais pourquoi c'est la voiture noire et pas les voitures bleues. Mais
d'accord.
Excellente.
Bah oui.
Et du coup j'avais bon bref.
On reprend ouais. L'effet Barnum. Donc.
L'effet Barnum, c'est la tendance à se reconnaître dans une description vague. En gros, en 1948, il y a un prof de psychologie, Dr. Bertram Forer, qui a fait passer des tests de personnalité à 39 de ses étudiants. Il leur a donné le résultat de ce test une semaine plus tard, et les étudiants ont dû évaluer la pertinence de ces tests, et en moyenne, les étudiants ont trouvé que le test de personnalité leur correspondait bien, en moyenne, à 4,2-4,3 sur une échelle allant de 0. Donc,
ce qui est énorme.
Voilà, 0 aucune correspondance et 5 correspondances parfaites. Le twist, en fait, c'est que ce bon vieux docteur Forer avait donné le même résultat à tout le monde, le même résultat au test. C'était des phrases un peu bateau tirées d'un bouquin d'astrologie. Tiens.
D'accord.
Donc, je vous ai traduit quelques phrases.
C'est le 20 minutes qu'il aura filé, quoi.
Exactement. Non, mais il avait des petits morceaux choisis. Je vous ai traduit quelques phrases juste pour donner un exemple. C'est « Vous avez besoin d'être aimé et admiré par les autres personnes. Vous pouvez parfois être critique envers vous-même. Vous possédez des capacités insoupçonnées que vous n'avez pas encore utilisées à votre avantage. »
Moi, je ne me reconnais pas du tout.
Pas du tout. Cette expérience a bien sûr été reproduite moult fois depuis avec des résultats similaires. Et tout se passe comme si les humains avaient tendance à se reconnaître dans une description assez vague. Donc, l'effet Barnum a été nommé en hommage au cirque Barnum qui proposait des divertissements censés convenir à tout le monde. En gros, tout le monde y retrouve un peu son compte. Il y a eu plein de recherches complémentaires sur cet effet. Je vais quand même souligner celle de Dixon et Kelly, ces deux psychologues américains qui ont montré, entre autres, que non seulement on a tendance à se reconnaître dans cette description assez vague, mais en plus, on a tendance à penser que cette description ne peut s'appliquer qu'à nous, et pas à une autre personne, et pas à la population générale. Donc on a l'impression vraiment que c'est personnalisé, tu vois.
Ouais, mais comment ça se fait? C'est parce que c'est utilisé? Il y a un tutoiement qui est utilisé, ou c'est parce qu'ils prennent des cas?
Alors, il
n'y
a pas de tutoiement en anglais, à la base c'est en Amérique. Donc c'est dur de trouver une causalité.
Ouais.
Juste là, on découvre quelque chose,
on trouve
la cause.
Mais c'est... nous, on pourrait se dire qu'il y a une causalité là-dessus.
On pourrait dire que dans l'évolution, peut-être que le cerveau a choisi de faire comme ça, je ne sais pas.
Okay.
Bonne question. Deuxième point, la description paraît encore plus vraie si la personne qui nous la donne nous apparaît comme autoritaire.
Autoritaire, c'est une autorité scientifique ou une autorité morale?
Non, c'est quelqu'un d'autoritaire qui te...
Ah oui, d'accord.
C'est un peu sérieux, un peu
c'est
directif.
Tu as des troubles de la personnalité.
Voilà, c'est quelqu'un qui te...
Tu n'as pas confiance en toi.
Exactement.
Voilà.
Et c'est vrai qu'il y a des traductions françaises où on parle de figure d'autorité, donc quelqu'un qui serait compétent.
Ouais,
en science,
ça.
Et en fait, non, en tout cas, dans l'étude de Dixon et Kelly, c'est vraiment, ils parlent d'autoritarisme.
D'accord.
Voilà, il y a des échelles pour... Bref, voilà. Une autre truc, ils ont...
T'imagines, tu fais ça avec tes gosses, tu fais des petits calendriers personnalisés tous les matins.
Mais t'as pas besoin qu'ils soient personnalisés, c'est ça qui est beau, justement.
Ouais, mais non, mais tu leur donnes, justement, tous les matins, tu leur files un horoscope avec des phrases bateau, quoi.
Il y a plein de gens qui lisent... Bref, justement, un autre point, c'est que la description paraît encore plus vraie si... Si elle comprend plutôt des éléments globalement positifs. En gros, il vaut mieux brosser les gens dans le sens du poil.
Ouais, je vais en parler tout à l'heure parce que quand c'est positif, l'information rentre mieux et est plus acceptée par les personnes.
Et c'est peut-être une racine commune à cet effet. Ces deux chercheurs ont également trouvé une corrélation entre anxiété et croyance dans les horoscopes et le fait de lire les horoscopes. On peut croire et pas les lire,
ouais.
Et là, il y a vraiment les...
Mais là, c'est une corrélation, mais c'est une causalité, en fait.
Je ne sais pas, je ne suis pas chercheur.
Ouais, mais moi, j'aurais tendance à le penser, parce que
Tu penses que c'est l'anxiété qui pousse
Non, dans l'anxiété, tu as tendance à aller te raccrocher à plein de choses, que ce soit une religion ou des croyances, enfin, souvent, pour justement calmer cette anxiété.
C'est possible.
J'ai pas fait d'études empiriques là-dessus, mais j'aurais tendance à penser que c'est un bien normal chez les gens.
C'est possible, c'est carrément possible. Comme on peut le penser, du coup, l'effet Barnum ou l'effet Forer, rendons à César, constitue donc du pain béni pour les diseuses de bonne aventure en tout genre. Dans plein de pseudosciences, c'est utilisé. Et comme d'habitude, tous les liens se trouve en description.
C'est incroyable ça.
L'étude principe, Dixon et Kelly, enfin, une régalade. Une régalade.
Par contre, je veux bien, alors je vais passer à mon édito, mais si quelqu'un va vraiment cliquer sur ces liens.
On a des preuves que c'est déjà arrivé.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a des mails qui avaient dit que tu ne mettais pas tes sources.
Oui, mais il y a des mails qui disent que je ne mets pas mes sources, mais il n'y a pas de mails qui disent qu'ils cliquent sur tes sources.
Par contre, ça fait une très bonne transition pour.
Pour le fait qu'on ait reçu un mail.
Ah, mais tu ne le dis pas à chaque fois. Tu veux qu'on le dise à chaque fois qu'on reçoit un mail?
Ah bah en vrai, oui.
Le courrier, quand ils sont sympas, ouais. Non, parce que c'est vrai que 9 fois sur 10, c'est des mails d'insultes.
On fait une petite rubrique qui courrier des lecteurs. Quand ils sont sympas. Et là, c'est vraiment super sympa. Il s'agit de Benoît qui fait un podcast qui s'appelle La Diagonale du Vide.
Benoît que tu connais IRL.
Oui, parce qu'on l'a rencontré à Podren, qui est un festival de podcast qui se passe pas très loin de la Grange. On ne donne pas d'indication
moins
géographique.
Moins de 10 000 km.
Voilà, moins de 10 000 km voilà. De la Grange. Où nous, avec Adrien, on était un peu allés en dilettante parce qu'on nous avait gentiment invités. Donc, on est allé voir à quoi ça ressemblait et c'était super sympa.
Ouais, carrément.
Des gens passionnés, bienveillants. Et donc, on avait fait un petit exercice où on s'était retrouvés à 4-5.
Mélangé des gens qu'on ne connaissait pas.
Voilà.
Et j'étais super nul. C'est hyper dur de...
Et moi, j'étais vraiment bon. Incroyable.
Ouais, étonnant, ouais. Franchement, ouais. Inversion des valeurs. Un peu comme dans Eux, c'est l'enfoiré qui inverse les valeurs entre gentil et méchant, tu vois. Pareil, incroyable. Incroyable.
Où les méchants sont la police.
Mais oui, alors et que ouais. Lui, il dit qu'il deal de la drogue, qu'il braque des banques, et c'est lui le gentil.
T'as vu ?
Incroyable.
Inversion des valeurs. Et donc, exactement. Sur cette inversion des valeurs, on avait rencontré Benoît de la Diagonale du Vide, un type super qui était venu en fait du centre de la France. Oui, il laisse son magnétophone tourner quand il est avec des gens.
Magnétophone. Eric est né en 1902, c'est pour ça.
Et non, mais ça lui fait des super moments de vie qu'il incorpore dans ses podcasts. Et j'ai souvenir que c'était vraiment une belle omission. Je vous invite à aller regarder. Ça s'appelle La Diagonale du Vide. Voilà. Et puis on te remercie, Benoît, parce que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a un auditeur. Maintenant, on sait qui c'est toi.
Voilà. Et ma maman, quand même.
Et ta maman. Ça fait deux auditeurs.
Et bah sur ce, jingle.
Je t'en prie. La Grange Podcast.
Esprit critique.
Esprit scénique. C'est ma voix, ça ?
C'est comment, beau gosse, ouais,
comment je dois pécho de ouf ?
Ouais. Tu devrais être comédien de doublage.
C'est vrai ?
Bah, t'auras un
job. Pour des films de cul, je serai là.
T'auras au moins un job. Merci.
J'ai l'impression qu'à chaque épisode, on parle de ma situation professionnelle.
Ok.
Non, mais c'est vrai.
D'accord, j'avais pas, excuse-moi.
C'est vrai, tu vas voir. Ouais, réécoute tous les podcasts.
Ça roule. Tu vas faire ça demain. En attendant, est-ce que ça te dit de lancer ton exposé de CE2?
Ouais, on peut faire ça. Et si t'écoutes demain, j'ai calculé, on est à moins de 24 heures d'enregistrement pour l'instant.
D'accord.
Mais donc juste à la limite.
On peut faire un marathon de ouf.
Tu peux te faire. Faites-le chez vous. On fait plus le. On vous donne des devoirs à la maison, là. La petite rubrique qu'on faisait à la fin.
Ah, je suis pas sûr que les gens le faisaient vraiment.
Non, je sais pas. Si, il y en avait une qui était super. C'était changer de route pour rentrer chez vous.
Créativité.
Aller dans la maison d'un autre avec la femme d'un autre. Bonjour à tous. Donc, Adrien a décidé d'avoir le moins d'auditeurs possible. Le sujet qu'il m'a donné à vous présenter aujourd'hui se nomme la réactance.
Wow.
Pour celui qui lit les descriptions d'Adrien qui accompagne les épisodes, tu remarqueras qu'il avait prédit que nous allions en parler dans un prochain épisode. Pouvoir magique, art divinatoire, ou décide-t-il seul de la ligne éditoriale de l'émission par manque d'implication de son co-animateur ? Impossible de le savoir. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi consiste ce mécanisme psychologique qu'est la réactance. Une définition basique serait une réponse psychologique à ce que l'on percevrait comme des menaces à nos libertés. Les quatre éléments importants de cette théorie sont la perception de la liberté, la menace à cette liberté, la réaction et la récupération de cette liberté. Le concept de liberté ici peut être associé à des actions, émotions ou attitudes. Une attitude, c'est pas genre jouer au poseur en jetant sa cigarette avec le pouce et l'index. C'est une construction psychologique qui caractérise une personne, un état d'esprit construit à partir d'expériences et d'émotions. Le couple qui a bossé là-dessus, c'est Jack et Sharon Bram, qui en plus de toujours venir avec des fleurs et du vin en soirée, ont écrit l'ouvrage de référence suivant, Psychological Reactance, A Theory of Freedom and Control. Incroyable, hein ?
Ouais.
Je cache bien que j'ai vécu un an au Pays de Galles,
ouais,
avec cet accent de merde, hein. Ils ont écrit ça en 1981. Alors bien sûr, le degré de réaction à une perte ou une menace de perte de liberté est proportionnel à l'importance de celle-ci.
Est-ce que tu as des exemples après ? Parce que je pense que les...
Ça va venir, ça.
Ok,
va venir.
Ok.
On conçoit dans cette théorie que le sujet n'est pas conscient de la réactance, donc on ne se rend pas compte de sa réaction.
Okay.
Mais lorsque l'on prend conscience de sa réactance, de la réaction qu'on a, on peut modifier celle-ci et donc réagir de façon plus appropriée.
Donc c'est important de le savoir.
C'est important de le savoir.
C'est beau.
Alors le couple Brems, qui en plus de ça ont une conversation des plus agréables et on les réinvitera certainement à dîner, n'est-ce pas chérie? Dans leur étude de 1981 sur la réactance chez les enfants, montre que la réactance fonctionne sur un mode de l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Par exemple, l'enfant désire toujours jouer avec le jouet qui est le plus difficile d'accès. Donc sur cette expérience, ils ont fait un jouet où il y avait une petite barrière avec un jouet similaire qui était donné à l'enfant. Mais l'enfant n'allait pas trop vers l'autre jouet similaire.
D'accord.
Par contre, ils ont levé la barrière et l'enfant se retrouvait à aller chercher le jouet, alors que c'était des jouets similaires. Hein. Il avait le même avec lui, mais il voulait aller chercher ce jouet.
D'accord, c'est ouf.
Voilà. Une autre étude de 2005 sur le sujet a montré que les personnes étaient moins sujettes à une réactance forte lorsque la communication est établie par une personne ayant une forte crédibilité, donc sur un sujet, que ce soit moral ou scientifique par exemple, et que la communication est faite de façon positive et sans menace.
D'accord, ça se recoupe avec
la... C'est incroyable. Hein. Par exemple, si votre médecin vous dit d'arrêter de fumer, la crédibilité est forte, mais s'il rajoute que vous allez crever comme un chien dans le caniveau si vous continuez, votre réactance va être importante et vous n'allez certainement pas faire un choix rationnel en achetant un paquet de cette merde à 10 euros en sortant de son cabinet. La réactance est bien sûr plus forte chez les adolescents car la liberté est une notion importante de leur émancipation. Donc c'est pour ça, quand on leur vole un petit peu de leur liberté, la réaction est plus importante parce que c'est une de leurs valeurs premières vu qu'ils souhaitent s'émanciper et devenir des adultes.
D'accord. T'es là, non, tu montes pas ta bite sur Snapchat. Si, je vais montrer ma bite sur Snapchat.
Voilà.
D'accord.
J'ai dû rater un truc, moi, à mon adolescence. Ce biais cognitif a aussi des effets sur la manipulation mentale. En utilisant des phrases laissant croire à son interlocuteur qu'il a le choix, on diminue sa réactance et donc on augmente les chances d'une réponse positive. Et je terminerai sur cet exemple. Vous êtes libre d'écouter Lagrange Podcast et de vous abonner. C'est à vous de voir. Ne vous sentez pas obligé.
Ni de lâcher des bonnes notes et de...
Voilà.
Voilà, vous n'êtes pas du tout obligé. Putain, c'est la bonne...
C'est de la bonne manipulation mentale.
Bon ouvrage, belle rubrique. Très belle rubrique.
Merci, le sujet est de toi, donc c'est la moitié du mérite te revient.
C'est la moitié, c'est 50% du mérite.
Ah ouais, je te donne 50%. Bah ouais.
Eh bien écoute, passons à mon exposé de CE2.
Je t'en prie, s'il te plaît. Et donc quel sujet super je t'ai donné?
Eh bien comme d'habitude, Eric se torche les fesses avec la simplicité, mais encore donné un sujet mal cadré et difficile, les surdoués. Voilà. De manière générale, le terme surdoué définit une aptitude intellectuelle supérieure aux normes. Donc, dans les diverses sources que j'ai encore une fois mises en description, la définition la plus simple, celle qui revient le plus souvent, est juste celle d'un QI supérieur à 130.
D'accord.
Pourquoi donc cette limite de 130?
Eh bien oui, pourquoi donc?
Eh bien, laissez-moi vous conter une histoire. Donc, la notion de quotient intellectuel a été inventée par un psychologue allemand en 1912. R. Wilhelm Stern, qui a pompé les travaux de deux Français.
Il était bien cet accent.
Alfred Binet et Théodore Simon. Là, ça c'est du terroir, ça. Nos deux comparses ont en effet publié en 1905 la première échelle de l'intelligence. Donc en fait, ils ont fait ça à la demande de l'État qui cherchait un moyen de détecter par avance les élèves les plus pourris à l'école.
Ah, les plus pourris, pas les plus intelligents?
Non, les plus pourris.
Okay.
Donc ils ont créé la notion, donc Binet et Simon, je les recite, ont créé la notion d'âge mental, c'est là que ça vient, qui se calcule en fonction de la réussite à des tests. Par exemple, si un enfant de 6 ans réussit les tests avec les mêmes résultats que la moyenne des enfants de 9 ans, bah, il a 9 ans d'âge mental, quoi.
Ok.
Et donc Wilhelm Stern...
C'est pas juste une insulte, t'as 9 ans d'âge mental.
Non, ça peut être même un compliment si t'as 6 ans et que t'as 9 ans d'âge mental. Tu vois. Okay. Wilhelm Stern, donc ce vil boche, hein, comme on dit, a créé la notion de quotient intellectuel simplement en divisant l'âge mental par l'âge réel multiplié par 100. Donc dans notre exemple, un enfant de 6 ans aurait un QI, qui réussit les tests de 9 ans aurait un QI de 9 divisé par 6 fois 100, donc 150 de QI. Il a juste fait
ça.
Mais
c'est une énorme arnaque.
Oui, c'est un Allemand. Bon, petit problème, ce test n'est pas applicable aux adultes. Hein, donc arrêtez d'écrire des mails injurieux en disant qu'Eric a 9 ans d'âge mental. Ça ne marche pas du tout comme ça. Une trentaine d'années plus tard, un psychologue américain, David Wechsler, je ne sais pas comment ça se prononce, crée un nouveau test d'intelligence. Il conserve donc l'appellation de quotient intellectuel,
okay,
et il conserve la moyenne de 100. Et le mec a bien réussi son coup parce que son échelle est encore utilisée à l'heure actuelle, 80 ans plus tard, 90 ans, beaucoup plus tard. Elle suit évidemment une courbe de Gauss centrée sur 100 avec un écart type de 15. Donc,
ouais, tu vas devoir expliquer ce qu'est une courbe de Gauss.
Pour les néophytes. En fait, ça veut dire que 95% de la population se situe entre 70 et 130 de QI, entre deux écarts types. Tu vois. Mm. Donc c'est une échelle avec une moyenne et une médiane qui est à 100. Donc on a tout à droite de la courbe.
Les très intelligents.
Voilà, 2,5% de haut potentiel, slash surdoués, ceux qui ont un QI donc supérieur à 130. Et donc fatalement, tout à gauche de la courbe, 2,5% de fans de Roland McDan, quoi. Donc
petite
anecdote croustillante. Il est parfois fait mention de personnes avec des QI très très élevés, par exemple dans les séries ou autres. En fait, ne vous faites pas berner, souvent ces QI sont calculés sur une autre échelle, notamment très souvent l'échelle de Cattell, qui a juste des écarts-types plus élevés. Et donc,
donc tu as plus de personnes intelligentes et plus de personnes débiles.
Voilà, en gros, la distribution est plus étalée, c'est artificiel, quoi. Par exemple, quand Sheldon Cooper dit qu'il a un QI de 187, en fait, il a un QI que de 154 sur l'échelle de Wechsler ou Wechsler.
Voilà. C'est déjà beaucoup.
De toute manière, Big Bang Theory, c'est de la merde. Donc,
voilà. Oui.
Et en plus, Cattell était un sympathisant nazi, donc calmez-vous tout de suite. Autre anecdote que je trouve...
C'est vrai que c'est un peu un truc de nazi d'essayer de...
Exactement.
De réguler la population en fonction de son intelligence.
Sauf que vu que c'est une description normale, fatalement...
Ils ont un peu raison, oui, mais...
Oui, mais du coup, tu vas juste... Bref. Autre anecdote que je trouve très croustillante, il semble y avoir un lien inverse entre QI et religion.
Ah ouais?
Ouais. En moyenne, gens religieux ont un QI inférieur à ceux qui ne le sont pas. Au début, je pensais vraiment que c'était une attaque gratos de la part du mec qui a rédigé la page Wikipédia. Tu vois, j'étais sur la page Wikipédia du QI. Il cite une étude que je suis allé voir qui concerne 77 personnes, donc je me dis bon,
on la mettra pas en description.
Pas en description, mais c'est un peu un FDP parce que 77 personnes, c'est vraiment de la merde.
Ouais.
Et en fait, j'ai fait un peu de biblio et en fait, on tombe très vite sur une énorme méta-analyse de 63 études, donc un truc gigantesque qui retrouve effectivement une corrélation négative entre QI et religiosité.
Oh, ça fait tellement de bien ce que
pour
tu dis.
Pour le coup, heureux les pauvres en esprit prend un peu plus de sens à mes yeux. Alors par contre, n'allez pas tout de suite attaquer Jean Mamadou, le mormon de votre rue, en le traitant de crétin. En fait, la différence de moyenne entre les deux populations est de 0,24 points de QI. C'est vraiment infime.
Que dalle.
Ouais, mais c'est mesurable. Sur l'échelle d'une population, c'est mesurable, mais oui, il n'y a pas de...
D'accord, oui, ouais, d'accord, je pensais que c'était vraiment important.
Non, il n'y a pas de quoi casser trois putes à un connard. Bref, revenons à nos zèbres, les surdoués.
J'adore que... Penser que ta mère nous écoute quand c'est des sortes de choses.
Alors, que dire de plus sur les surdoués? En fait, c'est pas évident de trouver un point commun à tous les surdoués, qui forment un groupe plutôt hétéroclite, hein, c'est 2,5% de la population, voilà. Il y a quand même des petites choses à dire. Premier point, haut potentiel ne veut pas du tout dire réussite scolaire, loin de là.
Oh non.
Le taux de problème scolaire a été évalué à 76% des enfants à haut potentiel. Bah, dans une étude que j'ai trouvée pas mal sur 600 enfants, c'est pas si mal. Deuxième point, est-ce que t'es fucked up dans ta tête quand t'es surdoué?
Bah, pas a priori, plus que les autres.
Un peu plus quand même. T'as un peu plus de risque d'être notamment anxieux ou dépressif, si j'en crois plusieurs études que j'ai trouvées, en lien, en description, blablabla. Même si, malheureusement, j'ai pas pu mettre ma dent sur une bonne méta-analyse.
Ah.
Triste jour. En revanche...
Ce sera pas en description, du coup, vu que...
Eh non, j'ai pas trouvé. En revanche, pas de lien évident entre haut potentiel et schizophrénie, comme l'atteste une étude sur un fucking million de Suédois.
Ah ouais?
Oui, monsieur.
Putain, beaucoup million. Trop d'argent, les Suédois.
Même s'il y a des trous dans la méthodo, le nombre de participants à l'étude est tellement ouf qu'on peut penser que c'est assez solide.
1 million? Ils ont fait ça quand?
1 200 000. En gros, en Suède, ils peuvent consulter avec le numéro de sécurité sociale si tu as déjà été hospitalisé pour de la schizophrénie et si tu as été... Voilà.
C'est super. En fait, et c'est super bien pour la science. Après, je sais pas pour la déprimer, mais...
Il y a un gros
biais
parce que tu diagnostiques ceux qui déjà ont été vus par un médecin en tant que tel et qui ont... Je crois qu'il y avait dans l'étude de mémoire, fallait avoir été hospitalisé, mais quand même, c'est...
Ouais. Ils sont propres, hein, sur leurs études. Hein.
Ouais, 1 200 000, c'est pas mal. Enfin, troisième point, comment savoir si vous êtes surdoué? Donc, si la question vous taraude, n'hésitez pas à demander à MagicMom29 sur le forum de Doctissimo, qui vous listera la liste des conditions telles que...
T'as déjà utilisé MagicMom.
Non, mais ce sera un running gag, mon pote. Hypersensibilité, hyperstimulabilité, exacerbation des cinq sens, curiosité exceptionnelle, imagination débordante, grande créativité, grande capacité d'observation... Bah, j'en passe, c'est des plus pourris, en fait. Le risque, c'est que vous vous retrouviez tout simplement par effet Barnum. Dans
bah oui, carrément,
symptômes.
Ouais.
Tiens. La vraie bonne chose à faire, si vous vous posez vraiment la question, bah, c'est d'aller voir un psychologue ou un neuropsychologue et de passer tout simplement un test de QI. Alors, on pourrait se dire que ça sert à rien de savoir si on est soi-même un haut potentiel, mais j'ai trouvé, comme d'habitude, une étude, c'est une thèse d'un psychiatre, je crois, qui, pour le coup, est pas mal. C'est presque 300 personnes, c'est assez solide. Enfin, la méthode est cool. Et le fait de savoir... que on est haut potentiel a été vécu par, je sais plus, 88 ou 90% des gens comme un vrai soulagement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire dépister et à porter des préservatifs. Voilà. Voilà, Eric, désolé de te décevoir, mais en fait, même si toi t'es surdoué, bah, ça va pas changer grand chose totalement à ta vie.
Non, c'est rien du tout, non. Tu trouves juste les autres un peu plus chiants que d'habitude, quoi.
Je sais pas, c'est une bonne question, mais peut-être, ouais. Voilà. Par contre, tu sais ce qui peut changer ta vie ?
Non, dis-moi, un bon jingle ?
C'est la rubrique Serious Business.
Et une rubrique Serious Business !
Rubrique Serious Business. Bonjour et bienvenue dans la rubrique Serious Business. Aujourd'hui, comme à notre habitude, une analyse de texte. Je cite des morceaux choisis, puis j'analyserai pour vous ce récit qui va probablement vous glacer le sang. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière. Un petit peu plus loin. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus. Un petit peu plus loin encore. Tellement si femme quand elle mord, tellement si femme je l'aime, tellement si fort. Donc, un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière. Clairement, la description correspond à celle d'une personne malade. Spéciale, comme on dit, probablement institutionnalisée en établissement psychiatrique ou d'une personne handicapée. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus. Donc, a priori, on est dans le registre du viol. Hein. Pour rappel, le viol est l'acte par lequel une personne est contrainte à un acte sexuel par la force, surprise, menace, ruse ou plus largement sans son consentement. Donc, si tu baisses quelqu'un sur un malentendu, ça fait un peu baisse surprise, on est d'accord.
Tu sais qu'il y a un mec qui a été en... Attends, je te coupe.
Mais c'est Londres... la rubrique sur les business. Mais coucou.
À Londres, là, il y a un gars... C'est pas drôle. Hein. Il a violé une fille, il a dit... qu'il devait trébucher, que son pénis l'avait pénétré, il a été acquitté.
What?
C'est pas un monde de malades.
Ah, j'espère que c'est de la fake news.
Non, c'est pas de la fake news. Bah non, ça fait un gros tollé. Voilà. Moi, je t'en prie, reprends.
De plus, Monsieur Lavoine, si tant est que c'est bien son vrai nom, dit bien un peu plus tard, tellement si femme quand elle mord, tellement si femme je l'aime, tellement si fort. Donc non seulement la victime essaye de se défendre, hein, tant bien que mal, en mordant son assaillant, mais qui plus est, la grammaire de l'assaillant laisse clairement sous-entendre un déficit cognitif marqué. Tellement si femme, tellement si fort. Un mec des 2,5% de la gauche de la courbe, comme on dit. Analyse des yeux revolvers de Marc Lavoine est donc qu'il s'agit du récit glaçant du viol d'une patiente potentiellement handicapée par un individu également handicapé. Je n'ai pas trouvé d'autres explications.
Marc Lavoine, Émile Louis, même combat.
Voilà, c'était mon analyse pour la rubrique de plus en plus sérieuse.
Ouais, elle est vraiment, vraiment sérieuse. Hein.
Ça rigole.
J'espère que vous êtes aussi choqués que moi.
Ça fait quelques jours que je suis amoureux de toi. Et si tu prouves quelque chose pour moi, écoute, rendez-vous au café de la gare, 14h.
C'est encore Gaëtan, ce petit obsédé, qui travaille au champ, aux rayons surgelés. Il drague tout ce qui passe, raconte des trucs douteux. C'est un gros dégueulasse, il est vraiment fort. Il vit chez sa bimée, il s'habille chez Dama, avec son petit ciré. Il est vraiment ringard, il joue les donjons, dans sa super repos. Il est vraiment en avant, il n'écoute qu'à l'amour. Jean...
Je crois que c'est vraiment un des. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. C'est un des meilleurs épisodes.
Rien.
Tout ce truc.
L'affaire. Il m'est. Exaspère.
En plus, le prochain, ça va être court. Mais ça va être.
J'ai rencontré Sophie à la foire au fromage. Elle est vraiment jolie. Je suis sur un nuage. J'ai eu son numéro par son meilleur copain. C'est un grand rigolo. Je crois qu'il m'aime bien. Paraît que je lui plais et qu'elle me trouve beau. Quand je mets mon ciré, je ressemble à Clo-Clo. Elles sont toutes folles de moi. Je suis irrésistible. Elles sont toutes en émoi. Je suis vraiment terrible. Je l'aurai. Car je lui plais.
Marc Lavoine, on blesse.
Craqué.
Il a été en dégringué.
Allô Sophie.
Ouais, non, en fait, il est marié depuis.
Tu as reçu un message après 14h.
Wow. C'est le genre de gars, il a mis fait rire.
Ouais. Alors, en plus, je sais pas à quel gars elle a sa femme, mais à mon avis, elle est pas dégueu, mais ouais. Non, mais c'est un mec hyper normal.
Je suis vraiment coincée pour une fois que je sors.
Je crois que c'est le pull.
Au café.
Putain, en fait, non,
il est beau gosse,
je pouvais pas rentrer dedans.
Que vont dire les copains, ce type a tout gâché. Ouais,
il a rétréci un peu la machine.
J'ai envie de le tuer à grand coup de
chance. J'ai 83 à 79.
Comme ça dans sa cuisine. Mais c'est quand même.
Il a vraiment rétréci.
Une fois qu'on
tu pouvais pas le porter en rétréci.
C'était bien quand on leur donnait des missions.
Il est bientôt 2 heures, mais elle ne va plus. Je vais lui faire mal au cœur.
Goûtez un truc que vous n'avez jamais goûté.
C'est quand ils sont partis, le café va fermer.
Je n'ai que quelqu'un.
C'est d'aller me coucher.
Allô,
c'est demain la marche pour les garder.
Écoutez, il est 2h du matin.
Alors là, t'es vraiment sexy. J'ai mangé n'importe qui peut se faire violer.
Tu sais que
j'avais toujours faim.
Je viens de finir
l'heure, écoute,
c'est ce qu'il y a mon gars, il me dit ça,
c'est bien sûr que tu dois répondre, je fais, bah, courage, top. Courage, ne pleure pas, je resterai un ami pour toi si tu veux, c'est fini entre nous, ciao.
Erreur 404, humour non trouvé.
Il faut qu'on refasse une fin là.
Ouais.
Moi j'en peux plus, j'ai pas de vanne de fin. Si, tu sais pourquoi les femmes arrêtent toujours leur créneau?
Attends, quoi?
Tu sais pourquoi les femmes arrêtent toujours leur créneau? Parce qu'on leur fait croire que ça, ça, c'est 30 cm. Ça, c'est pas une super vanne pour podcast.
C'est vraiment une... Non, c'est raté.